Le curé, qui connaissait le pays et ses habitudes, avait un immeuble où la voiture de Ruffec à Angoulême ne devait pas tarder à passer et dans laquelle il eut une place. Le vieux prêtre comptait demander des renseignements sur David Séchard à son petit-neveu Postel, le pharmacien de Loumeau, l'ancien rival de l'imprimeur auprès de la belle Ève. À voir les précautions que prit le petit pharmacien pour aider le vieillard à descendre de l'affreuse patache qui faisait alors le service de Ruffec à Angoulême, le spectateur le plus obtus eût deviné que monsieur et madame Postel hypothéquaient leur bien-être sur sa succession. « Avez-vous déjeuné? Voulez-vous quelque chose? Nous ne vous attendions point et nous sommes agréablement surpris. » Ce fut mille questions à la fois. Madame Postel était bien prédestinée à devenir la femme d'un pharmacien de Loumeau. De la taille du petit Postel, elle avait la figure rouge d'une fille élevée à la campagne. Sa tournure était commune et toute sa beauté y consistait dans une grande fraîcheur. Sa chevelure rousse, plantée très bas sur le front, ses manières et son langage appropriés à la simplicité gravés dans les traits d'un visage rond, des yeux presque jaunes, tout en elle disait qu'elle avait été mariée pour ses espérances de fortune. Aussi déjà commandait-elle après un an de ménage, et paraissait-elle s'être entièrement rendue maîtresse de Postel, trop heureux d'avoir trouvé cette héritière. Madame Léonie Postel, née Marron, nourrissait un fils, l'amour du vieux curé, du médecin et de Postel, un horrible enfant qui ressemblait à son père et à sa mère. « Eh bien, mon oncle, que venez-vous donc faire à Angoulême ?» dit Léonie, « puisque vous ne voulez rien prendre et que vous parlez de nous quitter aussitôt entrée. » Dès que le digne ecclésiastique eut prononcé le nom d'Ève et de David Séchard, Postel rougit, et Léonie jeta sur le petit homme ce regard de jalousie obligée qu'une femme entièrement maîtresse de son mari ne manque jamais à exprimer pour le passé dans l'intérêt de son avenir. « Qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait, ces gens-là, mon oncle, pour que vous vous mêliez de leurs affaires ?» dit Léonie avec une visible aigreur. « Ils sont malheureux, ma fille, » répondit le curé qui peignit à Postel l'état dans lequel se trouvait Lucien chez les Courtois. « Ah, voici dans quel équipage il revient de Paris !» s'écria Postel. « Pauvre garçon, il avait de l'esprit, cependant, et il était ambitieux. Il allait chercher du grain, et il revient sans paille. Mais que vient-il faire ici? Sa sœur est dans la plus affreuse misère, car tous ces génies-là, ce David tout comme Lucien, ça ne se connaît guère au commerce. Nous avons parlé de lui au tribunal, et comme juge, j'ai dû signer son jugement. Ça m'a fait un mal. Je ne sais pas si Lucien pourra, dans les circonstances actuelles, aller chez sa sœur. » Mais en tout cas, la petite chambre qu'il occupait ici est libre, et je la lui offre volontiers. « Bien, Postel, » dit le prêtre en mettant son tricorne et se disposant à quitter la boutique après avoir embrassé l'enfant qui dormait dans les bras de Léonie. « Vous dînerez sans doute avec nous, mon oncle, » dit madame Postel, « car vous n'aurez pas promptement fini si vous voulez débrouiller les affaires de ces gens-là. Mon mari vous reconduira dans sa carriole avec son petit cheval. » Les deux époux regardèrent leur précieux grand-oncle s'en allant vers Angoulême. « Il va bien tout de même pour son âge, » dit le pharmacien. Pendant que le vénérable septuagénaire monte les rampes d'Angoulême, il n'est pas inutile d'expliquer dans quel lacis d'intérêt il allait mettre le pied. Après le départ de son beau-frère pour Paris, David Séchard, ce bœuf courageux et intelligent comme celui que les peintres donnent pour compagnon à l'évangéliste, n'eut qu'une idée, celle de faire une grande et rapide fortune, moins pour lui que pour Ève et pour Lucien, ces deux charmants êtres auxquels il s'était consacré. Mettre sa femme dans la sphère d'élégance et de richesse où elle devait vivre, soutenir de son bras puissant l'ambition de son frère. Tel fut le programme écrit en lettres de feu devant ses yeux. Ce patient génie, mis par Lucien sur la trace d'une invention dont s'est occupé Chardon le père et dont la nécessité devait se faire sentir de jour en jour, se livra, sans en rien dire à personne, pas même à sa femme, à cette recherche pleine de difficultés. Après avoir embrassé par un coup d'œil l'esprit de son temps, le possesseur de la pauvre imprimerie de la rue du Mûrier, écrasé par les frères Cointet, devina le rôle que l'imprimerie allait jouer. Les journaux, la politique, l'immense développement de la librairie et de la littérature, celui des sciences, la pente à une discussion publique de tous les intérêts du pays, tout le mouvement social qui se déclara lorsque la restauration parut assise, exigeait une production de papier, presque décuple comparée à la quantité sur laquelle spécula le célèbre Ouvrard au commencement de la Révolution, guidé par de semblables motifs. En 1822, les papeteries étaient trop nombreuses en France pour qu'on pût espérer de s'en rendre le possesseur exclusif, comme fit Ouvrard qui s'empara des principales usines après avoir accaparé leurs produits. David n'avait d'ailleurs ni l'audace ni les capitaux nécessaires à de pareilles spéculations. Or, tant que pour ses fabricants la papeterie s'en tiendrait au chiffon, le prix du papier ne pouvait que hausser. On ne force pas la production du chiffon. Le chiffon est le résultat de l'usage du linge et la population d'un pays n'en donne qu'une quantité déterminée. Cette quantité ne peut s'accroître que par une augmentation dans le chiffre des naissances. Pour opérer un changement sensible dans sa population, Un pays veut un quart de siècle et de grandes révolutions dans les mœurs, dans le commerce ou dans l'agriculture. Si donc les besoins de la papeterie devenaient supérieurs à ce que la France produisait de chiffon, soit du double, soit du triple, il fallait, pour maintenir le papier à bas prix, introduire dans la fabrication du papier un élément autre que le chiffon. Ce raisonnement reposait d'ailleurs sur les faits. Les papeteries d'Angoulême, les dernières où se fabriquèrent les papiers avec du chiffon de fil, voyaient le coton envahissant la pâte dans une progression effrayante. En même temps que Lord Stanhope inventait la presse en fer et qu'on parlait des presses mécaniques de l'Amérique, la mécanique à faire le papier de toute longueur commençait à fonctionner en Angleterre. Ainsi, les moyens s'adaptaient aux besoins de la civilisation française actuelle, qui repose sur la discussion étendue à tout et sur une perpétuelle manifestation de la pensée individuelle. Un vrai malheur, car les peuples qui délibèrent agissent très peu. Chose étrange. Pendant que Lucien entrait dans les rouages de l'immense machine du journalisme, au risque d'y laisser son honneur et son intelligence en lambeaux, David Séchard, du fond de son imprimerie, embrassait le mouvement de la presse périodique dans ses conséquences matérielles. Armé par Lucien de l'idée première que M. Charbon père avait eue sur la solution de ce problème d'industrie, il voulait mettre les moyens en harmonie avec le résultat vers lequel tendait l'esprit du siècle. Enfin, il voyait juste en cherchant une fortune dans la fabrication du papier à bas prix, car l'événement a justifié la prévoyance du sagace imprimeur d'Angoulême. Pendant ces 15 dernières années, le bureau chargé des demandes de brevets d'invention a reçu plus de 100 requêtes de prétendues découvertes de substances à introduire dans la fabrication du papier. Ce dévoué jeune homme, certain de l'utilité de cette découverte, sans éclat mais d'un immense profit, tomba donc, après le départ de son beau-frère pour Paris, dans la constante préoccupation que devait causer la recherche d'une pareille solution. Comme il avait épuisé toutes ses ressources pour se marier et pour subvenir aux dépenses du voyage de Lucien à Paris, il se vit au début de son mariage dans la plus profonde misère. Il avait gardé 1 000 francs pour les besoins de son imprimerie et devait habiller de pareilles sommes à Postel le pharmacien. Ainsi, pour ce profond penseur, le problème fut double. Il fallait inventer et inventer promptement. Il fallait enfin adapter les profits de la découverte aux besoins de son ménage et de son commerce. Or, quelle épithète donner à la cervelle capable de secouer les cruelles préoccupations que causent et une indigence à cacher, et le spectacle d'une famille sans pain, et les exigences journalières d'une profession aussi méticuleuse que celle de l'imprimeur? Tout en parcourant les domaines de l'inconnu, avec l'ardeur et les enivrements du savant à la poursuite d'un secret qui, de jour en jour, échappe aux plus subtiles recherches. Hélas! Comme on va le voir, les inventeurs ont bien encore d'autres maux à supporter, sans compter la gratitude des masses à qui les oisifs et les incapables disent un homme de génie. Il était né pour devenir inventeur, il ne pouvait pas faire autre chose. Il ne faut pas plus lui savoir gré de sa découverte qu'on ne sait gré à un homme d'être né prince. Il exerce des facultés naturelles, et il a d'ailleurs trouvé sa récompense dans le travail même. Le mariage causait à une jeune fille de profondes perturbations morales et physiques. Mais en se mariant dans les conditions bourgeoises de la classe moyenne, elle doit de plus étudier des intérêts tout nouveaux et s'initier à des affaires. De là, pour elle, une phase où nécessairement elle reste en observation sans agir. L'amour de David pour sa femme en retarda malheureusement l'éducation. Il n'osa pas lui dire l'état des choses, ni le lendemain des noces, ni les jours suivants. Malgré la détresse profonde à laquelle le condamnait l'avarice de son père, le pauvre imprimeur ne put se résoudre à gâter sa lune de miel par le triste apprentissage de sa profession laborieuse et par les enseignements nécessaires à la femme d'un commerçant. Aussi, les 1 000 francs, le seul avoir, furent-ils dévorés plus par le ménage que par l'atelier. L'insouciance de David et l'ignorance de sa femme dura 3 mois. Le réveil fut terrible. À l'échéance du billet souscrit par David à Postel, le ménage se trouva sans argent. Et la cause de cette dette était assez connue à Ève pour qu'elle sacrifiât son acquittement et ses bijoux de mariée et son argenterie. Le soir même du paiement de cet effet, Ève voulut faire causer David sur ses affaires, car elle avait remarqué qu'il s'occupait de toute autre chose que de son imprimerie. En effet, dès le second mois de son mariage, David passa la majeure partie de son temps sous la pentille située au fond de la cour, dans une petite pièce qui lui servait à fondre ses rouleaux. 3 mois après son arrivée à Angoulême, il avait substitué, aux pelotes à tamponner les caractères, l'encrier à table et à cylindre où l'encre se façonne et se distribue au moyen de rouleaux composés de colle-forte et de mélasse. Ce premier perfectionnement de la typographie fut tellement incontestable qu'aussitôt après en avoir vu les faits, les frères Cointet l'adoptèrent. David avait adossé au mur mitoyen de cette espèce de cuisine un fourneau à bassine en cuivre, sous prétexte de dépenser moins de charbon pour refondre ses rouleaux, dont les moules rouillés étaient rangés le long de la muraille et qu'il ne refondit pas 2 fois. Non seulement il mit à cette pièce une solide porte en chêne, intérieurement garnie en tôle, mais encore, il remplaça les sales carreaux du châssis d'où venait la lumière par des vitres en verre cannelé, pour empêcher de voir du dehors l'objet de ses occupations. Au premier mot que dit Ève à David au sujet de leur avenir, il la regarda d'un air inquiet et l'arrêta par ces paroles. « Mon enfant, je sais tout ce que doit inspirer la vue d'un atelier désert et l'espèce d'anéantissement commercial où je reste. Mais vois-tu, reprit-il en l'amenant à la fenêtre de leur chambre et lui montrant le réduit mystérieux, notre fortune est là. Nous aurons à souffrir encore pendant quelques mois, mais y souffrons avec patience et laisse-moi résoudre un problème d'industrie qui fera cesser toutes nos misères. » David était si bon, son dévouement devait être si bien cru sur parole, que la pauvre femme, préoccupée comme toutes les femmes de la dépense journalière, se donna pour tâche de sauver à son mari les ennuis du ménage. Elle quitta donc la jolie chambre bleue et blanche où elle se contentait de travailler à des ouvrages de femme en devisant avec sa mère, et descendue dans une des deux cages de bois situées au fond de l'atelier pour étudier le mécanisme commercial de la typographie. Durant ces 3 mois, l'inerte imprimerie de David avait été désertée par les ouvriers jusqu'alors nécessaires à ses travaux, et qui s'en allèrent un à un. Accablés de besogne, les frères Cointet employaient non seulement les ouvriers du département, alléchés par la perspective de faire chez eux de fortes journées, mais encore quelques-uns de Bordeaux, d'où venaient surtout les apprentis qui se croyaient assez habiles pour se soustraire aux conditions de l'apprentissage. En examinant les ressources que pouvait présenter l'imprimerie Séchard, Ève n'y trouva plus que 3 personnes. D'abord l'apprenti que David se plaisait à former chez les Didot, comme font presque tous les prods qui, dans le grand nombre d'ouvriers auxquels il commande, s'attache plus particulièrement à quelques-uns d'entre eux. David avait emmené cet apprenti, nommé Cérisé, à Angoulême, où il s'était perfectionné. Puis Marion, attachée à la maison comme un chien de garde. Enfin Kolb, un Alsacien, jadis homme de peine chez messieurs Didot. Pris par le service militaire, Kolb se trouva par hasard à Angoulême, où David le reconnut à une revue au moment où son temps de service expirait. Kolb alla voir David et s'amouracha de la grosse Marion en découvrant chez elle toutes les qualités qu'un homme de sa classe demande à une femme. Cette santé vigoureuse qui brunit les joues, cette force masculine qui permettait à Marion de soulever une forme de caractère avec aisance, cette probité religieuse à laquelle tiennent les Alsaciens, ce dévouement à ses maîtres qui révèle un bon caractère, et enfin, cette économie à laquelle elle devait une petite somme de 1 000 francs, du linge, des robes et des effets d'une propreté provinciale. Marion, grosse et grasse, âgée de 36 ans, assez flattée de se voir l'objet des attentions d'un cuirassier haut de 5 pieds 7 pouces, bien bâti, fort comme un bastion, lui suggéra naturellement l'idée de devenir imprimeur. Au moment où l'Alsacien a reçu son congé définitif, Marion et David en avaient fait un ours assez distingué qui ne savait néanmoins ni lire ni écrire. La composition des ouvrages dits de ville ne fut pas tellement abondante pendant ce trimestre que Cérisé n'eût pu y suffire. À la fois compositeur, metteur en page et prod de l'imprimerie, Cérisé réalisait ce que Kant appelle une triplicité phénoménale. Il composait, il corrigeait sa composition, il inscrivait des commandes et dressait les factures. Mais le plus souvent, sans ouvrage, il lisait des romans dans sa cage au fond de l'atelier, attendant la commande d'une affiche ou d'un billet de faire part. Marion, formée par ses charpères, façonnait le papier, le trempait, et des Kolb à l'imprimer, l'étendait, le rognait, et n'en faisait pas moins la cuisine, allant au marché de grand matin.